Mourir plutôt que partir, c'est le titre du texte que signent Maxime Bergeron et Katia Gagnon aujourd'hui dans la presse. Katia Gagnon, journaliste, directrice, patronne du module d'enquête. Bonjour Katia.
Bonjour Bernard.
Raconte-nous l'histoire. On ne dévoile pas son identité complète, là, mais c'est M. Julian.
Exactement. M. Julian, donc sa famille nous a demandé de ne pas dévoiler son identité exacte pour... c'est des gens qui sont vraiment en choc du décès de cet homme-là. Donc, c'est un monsieur de 73 ans qui habitait depuis 46 ans dans son appartement de Verdun. Il était évidemment très attaché à cet endroit-là. Il était très attaché à ses voisins, donc qui le fréquentaient. C'était comme une espèce de les trois familles qui vivaient là. C'était comme une espèce de petite communauté. Il y avait une vieille dame qui était un peu quasiment la grand-mère des enfants de la famille qui habitait à côté de chez M. Julian. Donc, tu vois un peu le style des meubles. Oui. Et là, arrive donc en novembre 2018. Un nouveau propriétaire donc qui achète cet immeuble et qui, dans le fond, cet homme-là, c'est un entrepreneur en immobilier qui achète des immeubles depuis 3 ans dans le quartier Verdun. On parle d'un achat d'une dizaine d'immeubles, à peu près 40 unités de logement où les gens ont été donc évincés. Monsieur, le nouveau propriétaire, propose, comme il le propose à tous les locataires qui l'évincent. Voici, on va vous évincer pour faire des rénovations dans l'immeuble. Après ça, on va faire des condos avec l'immeuble. Alors, il va falloir quitter. Et puis, on vous propose une entente financière et tout ça. Dans le fond, la famille de M. Julian a essayé de lui dire « On va t'aider à trouver un logement, on va même peut-être contribuer financièrement à ce logement-là. » Mais monsieur, c'était trop pour lui. Là, ce que sa voisine nous a dit, c'est qu'il ne pouvait pas imaginer déménager, il ne pouvait pas imaginer quitter son logement. Alors, malheureusement, en février 2020, il s'est donné la mort, Bernard, cet homme-là.
C'est incroyable.
Oui, c'est. Puis, tu sais, quand tu parles aux gens des comités logement, là, ils envoient beaucoup de gens qui vivent énormément de désespoir à cause de ces évictions, parce que ça s'accompagne d'énormément de stress pour les gens, parce que il faut se trouver un nouveau logement et il faut le trouver à un prix qu'on est incapable de payer. Et c'est ça le problème maintenant, c'est que les appartements sont tellement, les loyers sont tellement chers que les gens paniquent quand ils reçoivent un avis d'éviction, Bernard, parce qu'ils se disent « Oui, mais là, comment je vais faire, moi, pour me retrouver un appartement à un budget que je peux me permettre? » Il n'y en a plus.
Mais il y a une protection. La loi depuis 2016 prévoit que si le locataire a plus de 70 ans, il peut rester dans son logement, non, Katia?
Oui, ça, c'est un très bon point que tu soulèves. Évidemment, dans le cas, effectivement, de M. Julian, cet homme-là n'aurait jamais dû être évincé parce qu'il rencontrait tous les critères de cet amendement à la loi que Françoise David a fait adopter, qui, dans le fond, dit que si vous êtes âgé de plus de 70 ans, si vous habitez depuis plus de 10 ans dans votre logement et que vous avez un faible revenu qui vous rendrait admissible au logement social, c'était le cas de M. Julian. Il rencontrait ces trois critères-là. Sauf que lui, il connaissait pas ses droits, il ne savait pas qu'il pouvait pas être évincé. Puis c'est souvent le cas des gens qui sont évincés, ils ne connaissent pas leurs droits, premièrement. Puis le propriétaire, on l'a questionné là-dessus. Il nous dit qu'il ne savait pas que M. Julian était âgé de plus de 70 ans.
Ouf, ça là, Katia, là, si tu me permets, là, si tu me permets.
Normalement, il y a la date de naissance de la personne, il y a son numéro d'assurance sociale, souvent. Donc, c'est tout à fait possible de savoir quel âge a le locataire. Bon, cependant, tu vas me dire, peut-être qu'il ne connaissait pas son revenu. C'est vrai. C'est pas écrit dans un bail combien tu gagnes chaque année. Donc, c'est comme ça qu'il se défend. Il dit qu'il ne savait pas que monsieur rencontrait les critères dans le fonds de protection.
Est-ce qu'il a un petit regret, le propriétaire? Y a-tu exprimé un petit peu de remords? Je sais pas, non?
Oui. Il a dit que lui, il se décrit comme un agent de gentrification. Il fait ça de façon complètement assumée. Moi, je gentrifie le quartier Verdun. C'est ce que je veux, c'est ce que je fais.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, Katia, gentrifie?
Ça veut dire, malheureusement, évincer donc la clientèle traditionnelle de Verdun, qui est une clientèle plus ouvrière, plus à faible revenu.
Gentrification, donc, ça veut dire évincer les pauvres pour faire entrer du monde plus riche.
C'est ça. C'est pas mal un bon résumé. Donc, les gens arrivent, ils sont plus en moyen, ils achètent un beau condo, tout rénové. C'est un peu ce qui s'est passé dans le club de Maisonneuve, par exemple, ou dans d'autres quartiers de Montréal. Et donc, monsieur lui dit, ben moi, c'est ça que je fais dans la vie. Je gentrifie ce quartier-là et puis j'ai pas de complexe avec ça. Bon, d'un autre côté, j'avais pas réalisé vraiment là, que monsieur pouvait être aussi désespéré. Puis il a exprimé quand même un certain désarroi par rapport à ce qui est arrivé à monsieur, mais il considère que c'est pas de sa faute. T'sais, il dit, moi, j'ai suivi les procédures normales et puis, c'est comment dire, il décline toute responsabilité dans cette affaire-là. Bon. Alors, même temps, il faut quand même être prudent. Là. Le suicide est un phénomène complexe qui peut être composé, tu le sais. Oui. C'est assez complexe. On ne se suicide pas pour un seul facteur, mais en même temps, c'est certain que dans le rapport de la coroner, c'est assez clair que c'est comme un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase ou l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, appelle ça comme tu veux, mais c'est clair que l'éviction a joué un rôle dans son décès. Là.
Katia Gagnon, journaliste à La Presse. Merci beaucoup, Katia.
Merci à toi, Bernard.
Là, je veux parler à quelqu'un qui travaille justement avec des locataires à Verdun, Annie Lapalme, qui est membre du comité d'action des citoyens et citoyennes de Verdun, qui est citée dans le papier de Katia et de Maxime. Bonjour, Annie Lapalme.
Bonjour.
Est-ce que ça arrive souvent, ça?
Ça, vous voulez dire des cas de suicide?
Ben, des gens qui sont, du suicide ou des gens qui tombent malades ou des gens qui vivent des dépressions, peu importe, là, mais qui vivent un choc terrible là, parce qu'on veut les évincer. Là.
Ben oui, je dirais que c'est la majorité des gens qui vivent des chocs, des dépressions, de l'anxiété, qui ont des traumas au point où est-ce qu'à plusieurs années après, ils sont même pas capables d'en parler parce que se faire évincer... ça veut dire, comme expliquait Katia, ça veut dire souvent devoir payer le double, le triple de loyer pour se reloger, ce qui est complètement impossible. Donc, nous, ce qu'on entend, c'est « ma vie est brisée, ma vie est détruite ». J'ai entendu des gens me parler de pensées suicidaires. Donc, la détresse psychologique, elle est très, très, très prononcée et ça va en augmentant parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont menacés d'éviction, qui viennent nous voir. C'est du jamais vu. Moi, ça fait 10 ans que je suis en logement, mais j'ai des collègues, ça fait 30 ans, et puis c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est vraiment les évictions massives en ce moment de locataires. Et puis oui, les gens sont complètement paniqués. C'est la très grande détresse psychologique.
Est-ce qu'on ne devrait pas rendre obligatoire, quitte à changer la loi, pour que les propriétaires informe les personnes de leurs droits, les personnes de 70 ans et plus, et qu'ils soient imputables, qu'ils soient responsables de vérifier l'âge des locataires, qu'ils soient responsables de vérifier s'ils sont là depuis 10 ans, qu'ils soient responsables de vérifier le revenu, pour faire en sorte justement que les personnes qui sont protégées par la loi, comme M. Julian, ne puissent pas être évincées. Vous me suivez?
Oui, je vous suis complètement. C'est sûr que ça prend des changements de loi, mais de compter sur les propriétaires pour informer leurs locataires.
Ah, mais tu le rends obligatoire. Non, mais tu le rends obligatoire, oui. Annie. Tu le rends obligatoire. C'est parce que les personnes...
Dans les groupes de logement, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des mesures fortes au niveau de modification au Code civil. Par exemple, les évictions pour agrandissement et subdivision, c'est quelque chose qui devrait être interdit parce qu'avec cette mesure-là, on évince les gens à coup sûr. C'est vraiment, il n'y a aucune défense pour les locataires. Donc, à ce niveau-là, il devrait y avoir des changements dans le Code civil et aussi des modifications au niveau d'un contrôle des loyers universel et obligatoire parce que ce qui sous-tend les évictions qu'on voit en ce moment, c'est vraiment la possibilité de tripler ou de doubler ou de des fois quadrupler un loyer en mettant les locataires dehors et en relouant à ce prix-là.
D'accord.
Parce que il faut absolument que ce soit le locataire suivant qui aille déposer une demande pour faire réviser le loyer. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que les locataires utilisent. Donc, il n'y a pas de contrôle des loyers qui est effectif au Québec en ce moment. Donc, il y a plusieurs mesures, oui, qui pourraient être mises en place, mais c'est vraiment, ça prend une volonté politique pour ça, parce que nous, ça fait 40 ans qu'on dit que ça prend un contrôle des loyers et il n'y a pas un... organisation politique qui a vraiment pris la chose au sérieux, là.
Annie Lapalme, membre du Comité d'action des citoyens et citoyennes de Verdun. Merci pour l'entrevue et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. On s'en va à la pause. Au retour, vous avez peut-être lu cet article. C'est quand même une étude de l'OMS qui dit si vous travaillez 55 heures et plus par semaine, vous augmentez vos risques de mourir. C'est pas des blagues, là, c'est très sérieux. Puis moi qui travaille plus que 55 heures, honnêtement, je suis un petit peu secoué par ça. Là, je ne vous le cacherai pas. Je vais vous résumer l'étude dans un instant, après la pause. Et puis, écrivez-moi, 98985, travaillez-vous 55 heures et plus par semaine? Est-ce que, quand vous entendez dire que ça pourrait être dangereux pour votre santé, est-ce que vous avez le goût de changer ça? Avez-vous l'intention de diminuer le nombre d'heures de travail que vous allez faire à l'avenir? Je sais pas, hein, 98985 par texto, Drainville, la commerciale, 985fm.ca, ça c'est le courriel, puis dans un instant, 790-9850.